Je voudrais revenir avec vous sur un sujet qu'on a évoqué ensemble il y a quelques semaines en arrière. Alors j'imagine que dans vos esprits, c'est un petit peu lointain. Mais la dernière fois que j'avais pris la parole un dimanche matin, j'avais abordé avec vous ce thème si essentiel et si important de la grâce. Alors si important, si vaste, qu'on ne sait pas toujours par quel bout prendre et traiter la question. Mais je suis convaincu que notre compréhension de la grâce nous permettra vraiment d'être épanouis, d'être heureux dans notre vie chrétienne. Plus nous comprenons bien ce qu'est la grâce de Dieu, et plus nous avons là tout ce dont nous avons besoin pour être heureux, pour être fort, pour être épanoui dans notre vie chrétienne. La grâce de Dieu. La Bible enseigne quelque chose de complètement... J'ai déjà du mal à trouver les mots pour vous parler de la grâce, mais de quelque chose qui est là complètement illogique. Parce que la grâce de Dieu, c'est illogique. La grâce, c'est une révolution. Parce que la grâce de Dieu et l'enseignement de la Bible prend à contre-pied tous les discours religieux qui veulent que pour être sauvé, il faut faire de bonnes actions. Vous voyez, vous regardez toutes les religions, vous voyez comment toutes elles fonctionnent. Et le principe pour pouvoir être accepté de Dieu, le principe pour pouvoir aller au paradis, pour pouvoir être sauvé, c'est d'accomplir un maximum de bonnes actions. C'est d'essayer de trouver cet équilibre entre bonnes et mauvaises actions pour faire en sorte que la balance puisse pencher du côté des bonnes actions et que quand on paraîtra devant Dieu, eh bien, c'est qu'il puisse dire « Ok, tu as été une bonne personne, tu as accompli de bonnes actions, de bonnes œuvres, alors je t'accepte au paradis. » Mais si ça penche de l'autre côté, eh bien, on va en enfer, on n'est pas sauvé. C'est le principe et c'est le processus auquel invitent toutes les religions. Et la Bible enseigne carrément le contraire. On est totalement à l'opposé de cette vision religieuse. Parce que la Bible nous dit que c'est impossible d'accomplir la volonté de Dieu. Si nous voulons nous fonder sur nos bonnes œuvres et nos bonnes actions pour pouvoir être acceptés par lui, pour pouvoir aller au paradis, à ce moment-là, il faudrait que nous accomplissions toute la volonté de Dieu. Dieu est parfait et ce que nous devrions de notre côté être, c'est être parfait. Et c'est accomplir parfaitement toute sa volonté. Mais il n'y a pas besoin d'être un grand théologien pour comprendre, et on le voit dans notre vie quotidienne, que c'est impossible d'accomplir toute la volonté de Dieu. Alors si nous voulons être sauvés, il faut que ce soit Dieu lui-même qui décide que nous soyons sauvés. Il faut que ce soit une décision souveraine, et il faut qu'il nous fasse grâce. Il faut que ce soit sa décision qui fait que nos péchés sont effacés, que nos péchés ne vont pas nous condamner, mais qu'on va être sauvé, qu'on va aller au paradis. C'est une décision que Dieu prend souverainement. De la même manière que dans la Constitution française, il est prévu que le président de la République peut exercer son droit de grâce, eh bien là, quand il exerce son droit de grâce, ça veut dire qu'il prend la décision souveraine, et il n'y a que lui qui peut prendre cette décision, de faire en sorte que quelqu'un qui est condamné à une lourde peine, à la prison et dans le temps même à la peine de mort, il peut prendre la décision eh bien, que cette personne ne sera pas condamnée, n'échappe à la condamnation. Sur le plan spirituel, c'est ce que nous dit la Bible, c'est la même chose. La seule manière que nous ayons de pouvoir aller être sauvés, d'aller au paradis, c'est que Dieu le décide et c'est qu'il nous fasse grâce, c'est qu'il nous donne le salut. Vous voyez que c'est complètement à l'opposé de ce que nous entendons dans le discours religieux. Je vous avais raconté une histoire pour pouvoir illustrer ça. Alors, étant donné qu'il y a quand même pas mal de nouvelles personnes qui nous ont rejoints ce matin, et peut-être que comme c'est un peu loin, vous ne vous souvenez pas forcément. Alors, ce n'est pas vraiment une histoire qui est tellement à ma gloire. Donc, tant pis, je vais faire un effort pour vous raconter ça à nouveau. Je vais juste demander aux personnes qui nous ont rendu visite ce matin, que ça reste entre nous. Vous n'allez pas trop le diffuser au Canada, au Maroc. J'avais raconté cette histoire. Un jour, j'étais parti en vacances avec ma famille dans l'Aveyron. Et donc, la route est assez longue quand même. Et puis, par souci d'économie, on avait dit, bon, on va pas prendre l'autoroute, on va rouler sur la nationale. Oui, ça y est, vous vous souvenez? Ouais. Et donc, je conduisais normalement, j'avais les yeux sur le compteur et je maintenais à ma vitesse à 90 km/h. Et puis, sur la route de l'allée, poumf, flashé. J'avais pas fait attention parce qu'il y avait une portion de la route où on devait passer à 70 km/h. Ah, j'ai dit, mince, bon. Tant pis, hein, ça fait toujours mal, parce qu'on se dit que cet argent-là, on aimerait bien l'utiliser pour autre chose quand on va en vacances. Alors là, la semaine se passe, et puis le samedi d'après, on reprend la route dans l'autre sens pour rentrer à Angers. Alors, vous imaginez quand même que je faisais bien attention, parce que m'étant fait avoir là une semaine auparavant, je me suis dit, là, je garde les yeux rivés sur le compteur et je conduis bien comme il faut. Et puis, pouf, une nouvelle, c'était pas là la même route, mais nouvelle portion à 70 km/h, inattention, et flashé. Flashé deux fois en 7 jours. Et vous savez qu'à ce moment-là, dans mon cœur, j'espérais vraiment que la contravention n'allait pas atterrir dans ma boîte aux lettres. Parce que je me disais, mais c'est, ok, d'accord, j'ai transgressé le code de la route, mais j'ai pas fait attention. J'ai pas, c'est une faute d'inattention. J'étais pas là en train de rouler à tombeau ouvert. J'ai mis personne en danger. Donc là, ce serait logique finalement que je sois pas condamné, que j'ai pas à payer ma contravention. Alors tous les jours, j'allais dans ma boîte aux lettres parce que je sais plus, c'est un délai de 10 jours. Hein. Si au bout de 10 jours on la reçoit pas, c'est bon, ça veut dire qu'on passe au travers. Mais 10 jours après, la première contravention dans la boîte aux lettres, je dis, ah, peut-être que la deuxième. Allez, bon, c'est bon, déjà 45 euros à l'époque. Et puis, non, 10 jours après, la deuxième était dans ma boîte aux lettres aussi. 90 euros. Ouais, comme vous dites, hein, ça fait mal. Hein. Vous savez, l'image du radar, c'est ça. J'ai pas échappé à la condamnation. Il a fallu que je paye les deux amendes. Ça, plus les points, parce que ça fait 2 points en moins. La loi me condamnait, justice devait être faite. On est bien d'accord. Et de la même manière, Dieu réclame que j'accomplisse toute sa volonté sans faillir, mais je m'aperçois que je ne peux pas y arriver. Il y a des moments où je faiblis, il y a des moments où je ne suis pas attentif, il y a des moments où je n'arrive pas à accomplir sa volonté. Et même avec la meilleure volonté du monde, même avec la plus grande détermination, je suis constamment pris en défaut. Je suis flashé. Ma nature est plus forte. Ce qui aurait été bien, quand j'y réfléchis pour aller encore plus loin dans cette histoire, dans cette illustration, ce qui aurait été bien, c'est que justice soit faite, mais sans que j'ai besoin de payer mes contraventions. Ça aurait été bien. Et le seul moyen, c'est qu'il aurait fallu que quelqu'un d'autre que moi veuille bien payer la contravention. Mais il faudrait que ce soit quelqu'un qui m'aime beaucoup. Hein. Aujourd'hui, une contravention, c'est 90 euros, ça a doublé. Donc si on se prend 2 contraventions, ça fait... pratiquement 200 euros. Tiens, on va faire un petit sondage. Qui m'aimerait assez ici pour payer 200 euros ? Allez, c'est le moment de vérité. On va voir si on peut continuer de travailler ensemble. Une main qui se lève. Samuel, t'es un vrai ami. Bénissez-le. Oh là là, bravo, ça me touche vraiment. Là, ça me touche. J'ai un seul ami dans l'église, ça me touche vraiment. Alors, je ne m'attendais pas à Samuel, mais je ne suis pas surpris. Mais autrement, je connais quelqu'un qui m'aime beaucoup et qui certainement aurait pu se proposer pour payer à ma place. C'est Sandrine. Sandrine, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ma femme. Arrête, ne me casse pas la baraque, s'il te plaît. Moi, je crois vraiment qu'elle m'aimerait assez. Peut-être pas 200 euros, mais... 90. En fait, je vais vous dire quelque chose. Sandrine, depuis qu'elle a le permis de conduire, elle a jamais été flashée. Jamais. Jamais. Donc, en fait, elle a quand même pas mal de mérite. Beaucoup de mérite. Parce que si elle acceptait de payer à ma place, ça voudrait dire qu'elle ne tiendrait pas compte de son mérite, mais qu'elle me l'imputerait. Parce que là, elle paierait à ma place, elle me donnerait même les points que j'aurais perdus. Donc, elle qui est méritante, tout son mérite, eh bien, elle l'utiliserait pour moi qui ne le méritais pas, qui ne mériterait pas là d'être que ce soit effacé, que ce soit effacé. Il faudrait là, il faut bien comprendre ça, c'est que Jésus a manifesté l'amour de Dieu en mourant à la croix pour chacun d'entre nous. Lui, il a jamais péché, lui, il a été parfait. Lui, c'est l'homme, la personne la plus méritante que la terre ait jamais portée. Jamais il a été pris en défaut, le mal n'est même pas rentré dans sa tête à Jésus. Mais pour que nous échappions à la condamnation, pour que nous soyons sauvés, c'est lui qui prend notre place. C'est lui qui décide là, de mourir à la croix. Et à ce moment-là, la grâce de Dieu efface nos péchés. La seule chose que Dieu demande pour que nous soyons sauvés, c'est de croire que Jésus est notre sauveur. C'est de croire que lui, il a porté mon péché. C'est de croire que la condamnation qui normalement devait tomber sur moi, elle est tombée sur Jésus. La grâce agit pour notre salut, mais elle continue d'agir. La grâce est toujours en action. Elle continue d'agir dans notre vie chrétienne. Elle agit autant dans le développement de notre vie spirituelle qu'à son origine. De même que nous avons le pardon par grâce, notre amélioration spirituelle et morale, ce que la Bible appelle la sanctification, se fait par grâce. Et ça, c'est très important que nous le réalisions et que nous en prenions conscience. Parce que souvent, c'est là que ça se complique. Il n'y a pas trop de difficultés pour dire « Dieu me pardonne, Dieu m'accepte ». Là, Jésus a pris ma condamnation. Mais après, c'est beaucoup plus compliqué pour continuer de marcher par grâce et de faire en sorte que la grâce continue d'agir dans notre vie. Pourquoi ? Parce que notre nature nous conduit facilement à reprendre les choses en main. On ne fait rien pour être sauvé. Et puis après, on se dit, mais bon, là, il faut quand même que je m'applique. Et on reprend les choses en main plutôt que de continuer de compter sur la grâce de Dieu pour être transformé, pour être changé. C'est pour ça que je voudrais à nouveau aborder avec vous ce thème, parce que face à ce défi, j'ai remarqué que les chrétiens adoptent des comportements qui sont assez différents et qui révèlent quelquefois une compréhension erronée de la grâce. Et ça freine dans la progression, ça freine dans la marche chrétienne, dans la marche spirituelle. Car après la conversion, il y a en effet plusieurs manières d'envisager sa marche chrétienne. Il y a la première manière, ce que je vais voir avec vous, c'est se donner des règles. On lit la Bible, on apprend ce que Dieu veut que nous fassions pour lui obéir, on s'imprègne là de ce que la Bible dit, et c'est normal en tant que chrétien, en tant que chrétienne, de devenir des lecteurs de la Bible, bien entendu, parce que c'est en lisant la Bible que nous connaissons la volonté de Dieu. Mais là, le réflexe que l'on peut avoir, c'est à partir de ce que dit la Bible, c'est de s'établir un code moral. On définit le plus clairement possible ce qu'il faut faire d'un côté et ce qu'il ne faut pas faire de l'autre. Et à ce moment-là, on raisonne en termes de « je dois » et « je ne dois pas ». Alors dans la liste de ce que je dois faire, il y a « je dois prier », »,« je dois lire la Bible », »,« je dois témoigner », »,« je dois venir à l'église », je dois pardonner si on m'a offensé, je dois servir Dieu, je dois ressembler à Jésus. On a une liste de « je dois ». Et puis à côté, il y a la liste de « je ne dois pas ». Je ne dois pas boire, je ne dois pas fumer, je ne dois pas mentir, je ne dois pas être grossier, je ne dois pas critiquer, je ne dois pas me mettre en colère. Et puis la liste, là, elle peut être très longue comme ça. Si nous raisonnons en termes de « je dois » et « je ne dois pas », nous allons à nouveau nous en remettre à nos propres efforts. J'ai un code, j'ai bien défini les choses, et maintenant je vais m'efforcer de mettre ce code en pratique. Donc vous voyez qu'on va compter sur nos propres forces pour grandir spirituellement et pour nous affermir. Nous nous reposons à ce moment-là sur notre nature. Et le problème, c'est que notre nature, vous le savez, est pécheresse. Et elle nous pousse à être indépendants de Dieu. Quand on parle du péché, on parle souvent d'actes mauvais. Un péché, par exemple, c'est mentir. Un péché, c'est voler. Un péché, c'est critiquer. Mais le péché, et c'est important de le saisir, c'est d'abord le désir d'être indépendant de Dieu. C'est ça le péché. C'est ce que nous enseigne l'histoire d'Adam et Ève. Quand on lit l'histoire d'Adam et Ève, c'est notre histoire. C'est le désir qui nous anime les uns et les autres de faire notre volonté plutôt que de faire la volonté de Dieu. Donc le péché, c'est ce désir d'être indépendant de Dieu. L'homme veut vivre non selon la volonté de Dieu, mais selon sa propre volonté. Et notre nature nous pousse à cette indépendance. Alors on voudrait faire le bien, mais on ne peut pas toujours. Relisez la lettre aux Romains au chapitre 7 où Paul décrit cette tension qu'il sent en lui. Je dis, mais là, je voudrais faire le bien, mais j'y arrive pas. Et quand les règles ne sont pas respectées, quand là, on veut faire le bien et qu'on n'arrive pas à faire le bien, et que notre code là ne parvient pas à ses objectifs, quand les règles ne sont pas respectées, qu'est-ce que ça finit par engendrer ? Ça engendre la tristesse, ça engendre la déception, ça engendre la culpabilité, et ça engendre même le désespoir. Et des moments, on a des personnes qui disent « Mais non, mais de toute façon, j'y arrive pas. Alors je lâche l'affaire, j'arrête, je continue pas. » Notre nature sera toujours plus forte que les règles. Même si les règles sont inspirées de la parole, la nature humaine sera plus forte que les règles. Si je reprends l'image du radar tout à l'heure, la question que je pourrais être amené à me poser, c'est quelle serait la conduite que j'adopterais si Sandrine avait réglé ma dette ? Comment est-ce que je me comporterais par la suite ? La première solution, ce serait ça. Comme je ne suis pas du tout certain de ne plus me faire flasher quand je vais reprendre le volant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un maximum de précautions. Donc, je vais faire le maximum pour faire plaisir à Sandrine. Je vais me donner une règle absolue. Je vais toujours rouler à 70 km/h. Comme ça, je pourrais pas me faire flasher si la route passe à 70 km/h. Donc c'est ma règle. Donc je vais mettre un post-it sur le volant. Ne pas dépasser 70 km/h partout, même sur le pare-soleil, sur la vitre. Comme ça, j'aurai bien le commandement, j'aurai bien la règle là devant les yeux. Ne pas dépasser 70 km/h. J'investirai dans un régulateur de vitesse. Peut-être ça me coûtera cher, mais je ferai des efforts pour pouvoir être sûr de ne jamais dépasser 70 km/h. Même quand j'aurai le droit de rouler à 90 km/h. Mais vous voyez bien que le problème, c'est pas de rouler à 70 ou à 90. Le problème, c'est ma distraction. Le problème, c'est mon inattention. Et je peux très bien me faire flasher dans un endroit où il fallait ralentir à 50. Et ouais. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors que j'avais fait tant d'efforts, alors que là, j'avais une règle devant moi, mais je vais dire, mais c'est pas possible, mais c'est désespérant, mais je suis nul, j'ai bon qu'à faire du vélo, au pire. Vous voyez, ça va forcément agir. On va se sentir découragé si on n'arrive pas à respecter nos règles. De plus, les règles que je peux me fixer concernent mes faiblesses. Elles sont généralement en lien avec mon histoire personnelle. Je me fixe avec ces règles le cadre qui me convient le mieux pour bien vivre ma foi. Et ce qui se passe quand on agit comme ça, c'est que quand je vois les autres qui ne respectent pas les règles comme moi je les respecte, des règles qui me semblent essentielles, je suis porté à les juger. On se montre très facilement critique à l'égard de ceux qui n'ont pas les mêmes règles que nous, qui n'adoptent pas exactement le même code moral. Rouler à 70 km/h, c'est une règle qui me convient à moi, parce qu'elle est susceptible de m'aider à ne pas me faire flasher quand on doit être à 90 km/h. À 70 km/h, justement. Mais cette règle-là, elle est liée à mon histoire, elle est liée à mon expérience. Elle n'est pas forcément adaptée aux autres. Et c'est sûr que si je roule à 70 km/h sur une route où il faut rouler à 90 km/h, je vais gêner les gens. Il va peut-être avoir un peu la queue derrière moi. Je suis sur une départementale ou une nationale et qu'il y a une bande blanche. Eh ben, les gens qui vont être derrière moi, ils vont pas pouvoir aller aussi vite qu'ils auraient le droit d'aller. Alors, ils vont me klaxonner, ça va les énerver. Et puis, j'imagine qu'au moment où ça va devenir la bande en pointillés, ils vont me dépasser, ils vont un peu énerver. Et moi, je vais dire, mais n'importe quoi! À quelle vitesse ils roulent? Ils respectent pas les règles! C'est vraiment un mauvais conducteur. Ce sont de mauvais conducteurs. Et de la même manière, on peut juger les autres. C'est pas des bons chrétiens parce qu'ils ne respectent pas les mêmes règles. Il y a quelques années en arrière, il y avait une jeune fille qui avait fréquenté le groupe de jeunes. Et avant de se convertir, elle faisait beaucoup la fête. Elle allait dans les boîtes de nuit. Elle dansait, les garçons, l'alcool, enfin bon, tout ça. Et puis, à partir du moment où elle est devenue chrétienne, bien entendu, elle a fait des choix. Et elle s'est donné des règles qui peuvent être nécessaires quand on vient de se convertir. Et notamment, donc évidemment, elle ne fréquentait plus ces lieux-là, mais elle n'écoutait même plus de musique. Les seules musiques qu'elle se permettait d'écouter, c'était les cantiques, c'était les chants spirituels. Et puis, un jour, elle a été invitée chez une amie, une autre fille qui était dans le groupe de jeunes. Et puis, son amie, spontanément, elle a mis de la musique. C'était la musique de jeunes, on va dire. Et là, tout de suite, la réaction de la première fille, c'est de dire « Mais wow, c'est pas spirituel, c'est pas de la bonne musique. » Ça, c'est « Tu écoutes ça, tu te permets d'écouter ça. Tu es chrétienne et tu écoutes cette musique-là. » Alors, je le sais, cette histoire, parce que cette jeune fille-là, elle avait été troublée. Elle a dit « Mais je peux pas, j'ai pas le droit d'écouter cette musique-là. » Elle était venue m'en parler. Je dis « Mais non, le problème, c'est pas la musique. La musique, c'est de la musique. Après, il faut, si tu sais gérer les choses, si tu peux écouter de la musique. » Mais voyez que là, ce qui s'est passé, c'est que cette jeune fille, à cause de son histoire, elle avait établi un code moral et elle se mettait au-dessus de ceux qui ne suivaient pas le même code moral qu'elle, qui n'en avaient pas besoin non plus. Donc c'est très très facile, à partir du moment où on établit là comme ça des codes, de pouvoir se mettre au-dessus des autres et de juger les autres. Et puis enfin, adopter des règles, c'est complètement contradictoire avec la grâce. La grâce libère, les règles emprisonnent. On se remet sous un joug, on se ligote quand on se met dans des règles. Les règles n'empêcheront jamais notre nature de s'exprimer. Jamais. On peut se donner temporairement l'impression de pouvoir la maîtriser au prix de gros efforts, au prix d'une discipline rigoureuse, mais les règles sont incapables d'agir profondément. elles ne peuvent pas agir dans nos cœurs, elles ne peuvent pas agir dans notre esprit. Vous savez, ce qui est contenu, ce qui est réprimé, quelquefois pendant des années et des années, finit toujours à un moment par s'exprimer. Alors on peut enfouir, on peut donner l'apparence, on peut lutter là dans le secret, avec nos règles, mais un jour ça ne suffira pas. Et tout ce que nous avons enfoui, ça va ressortir. Avec ma règle là du code de la route que je me suis donnée, je ne suis plus libre de rouler à 90 là où j'aurais le droit. Alors je vais me brider, alors qu'il n'y a aucune raison valable de le faire. Mais un jour, alors que je roulerai, je vais voir une belle ligne droite, avec un beau panneau 90. La vue sera parfaitement dégagée. Et tout ce que j'ai réprimé, tout ce que j'ai contenu en moi, peut-être pendant des mois et des années, d'un seul coup, ça va descendre dans ma jambe droite. Et ça va mener mon pied à appuyer sur l'accélérateur. Et là, je vais partir et je vais kiffer. Wow, il y avait longtemps. Et là, évidemment, pouf, flashé. Ou pire, parce que si je dépasse vraiment la limitation de vitesse, je peux avoir un accident. Et c'est souvent ce qui arrive. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment partager ça avec vous. Si vous réprimez les choses qui sont liées à votre nature, si vous êtes en lutte avec un péché, là, ce n'est pas les règles qui pourront vous changer. Non, ça ne pourra pas venir par les règles. C'est d'ailleurs ce que dit Paul très clairement. Paul, c'était le promoteur de la grâce. C'était un passionné de la grâce. Quand il annonçait l'évangile, il parlait de la grâce. Et il dit dans la lettre aux Colossiens, c'est au chapitre 2, versets 20 à 23, il dit « Vous êtes morts avec le Christ et vous avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Alors pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde ? En acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre, ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas. » Et ça continue, « Elles concernent des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. » Il s'agit là de prescriptions et d'enseignements purement humains. Certes, ces règles ont une apparence de sagesse, car elles parlent de bonne volonté religieuse, d'humilité et de discipliner durement son corps, mais elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs de notre propre nature. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Les règles sont des moyens naturels, nous dit Paul. C'est vrai, on a besoin de règles. Il y a des règles dans les entreprises, il y a des règles dans toutes les communautés que nous formons. C'est naturel. Et là, Paul dit, mais ne comptez pas sur ce genre de règles pour pouvoir régler votre problème spirituel. Ce sera inefficace. Et ça rend la grâce inactive, parce que je me repose sur mes propres forces. Ça, c'est le premier comportement qu'on peut voir dans la marche chrétienne. Le deuxième comportement, c'est se laisser aller. C'est de l'autre côté. L'opposé. Donc là, quand on se laisse aller, c'est... On a bien compris que la grâce nous pardonnait. On a bien compris qu'on n'a fait aucun effort pour être sauvé. Et on se dit qu'on n'a aucun effort à faire après dans la vie chrétienne. Puis de toute façon, c'est vrai, j'arrive pas à faire la volonté de Dieu. Mais tant pis, hein, je ne vais pas me prendre la tête. Je ne vais pas m'empoisonner l'existence. Dieu est amour. Dieu comprend. Dieu pardonne. Dieu efface. Excellent. Allez, alors j'y vais. Je sais ce que dit la parole, je sais ce que dit la Bible, mais je vais faire le choix délibéré de ne pas obéir à Dieu. Alors, c'est pas grave, parce que Dieu efface. C'est pas grave. La grâce devient un sauf-conduit pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Là, dans la première solution, c'était de ligoter sa nature. Là, la deuxième solution, c'est de laisser faire la nature. Là, aucune barrière, on s'exprime dans tous les domaines, on assume notre indépendance par rapport à Dieu. Ok, je sais, là, je sens que de toute façon, là, je suis porté à ne pas faire la volonté de Dieu, mais j'assume mon indépendance, j'assume là ce que le péché me conduit à faire. Je ne suis pas contraint par ce que Dieu révèle dans sa parole, ou pas par tout ce qu'il révèle dans sa parole. Et ça, c'est quand même faire peu de cas de l'amour que Dieu a manifesté pour nous, que Jésus a manifesté pour nous. C'est un peu comme si je disais, mais merci Sandrine d'avoir payé pour moi, parce que grâce à toi, je suis complètement libéré du code de la route. Terminé les limitations de vitesse, terminé les panneaux, tout ça, pas besoin d'en prendre compte. Non, désormais maintenant, je suis libre, je suis totalement libre, et sur la route, je vais pouvoir faire ce que je veux. Je peux rouler à 90 tout le temps, même là où faut ralentir à 70 ou à 50. Là, c'est bon, maintenant j'ai cette liberté absolue. De toute façon, je peux même être flashé, c'est pas grave, parce qu'elle paye. Je peux être flashé. Mais Sandrine, elle pourrait peut-être se retourner vers moi et dire, mais oh, à quoi ça a servi? À quoi ça a servi que je paye? Quelle est la valeur que t'accordes là à ce que j'ai fait pour toi, au service que je t'ai rendu? À quoi ça sert que Jésus ait payé pour nous si on ne tient pas compte de sa volonté par la suite? C'est pas logique. Les chrétiens qui se laissent aller ne sont pas moins critiques que ceux qui établissent des règles. Ceux qui s'efforcent de faire la volonté de Dieu, dans le regard de ceux qui se laissent aller, ils sont pas cool. Ils sont étroits d'esprit. Ils sont vieux jeux. Ils ont une vision étriquée de la vie chrétienne. Là. Oh, quand même. Hein, la vie chrétienne, c'est la liberté, c'est le fun. Voyez, et puis, s'ils nous disent qu'on n'est pas tout à fait dans les clous, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous jugent. Ils nous aiment pas vraiment. Un peu ce langage qu'on entend. C'est sûr que si j'ai pris l'habitude sur la route de rouler à la vitesse que je veux, quand je veux et où je veux, tous ceux qui s'efforcent de respecter le code de la route, ils vont me gêner. Ils vont être un peu pénibles. Ils vont contraindre ma propre liberté. Ils vont peut-être me renvoyer justement à mon propre comportement sur la route. Alors je vais beaucoup klaxonner. J'en ai, allez, il y a la route devant toi, profite, dégage, laisse-moi, vous voyez. Celui qui se laisse aller peut être aussi porté à juger que celui qui s'établit des règles. Se laisser aller, c'est aussi contradictoire avec la grâce. La grâce libère du péché. Se laisser aller, c'est devenir volontairement prisonnier du péché. On croit bénéficier de la liberté qui nous a été donnée par Christ, et en réalité, on s'emprisonne dans les mauvaises habitudes. On s'emprisonne dans un état d'esprit qui ne favorise pas l'écoute de la parole. À partir du moment où je suis sélectif, je prends éventuellement ce qui m'intéresse. C'est comme un retour en arrière, une régression par rapport à ce qu'on a pu vivre avec Jésus, par rapport à la conversion. Et ça, Paul le condamnait aussi. C'était, je le disais tout à l'heure, un passionné de la grâce. Et il dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 6, au verset 15, « Mais quoi? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu ?» Certainement pas. Paul disait, mais je ne veux même pas en entendre parler. Oui, je vous prêche la grâce, mais ce n'est pas parce que je vous prêche la grâce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Certainement pas. C'est hors de question d'envisager les choses comme ça. Paul ne supportait pas l'idée que la grâce soit galvaudée. Et il dénonce un comportement où la grâce était invoquée, mais qui en réalité n'était plus en action, était inactive. Et puis, il y a une troisième façon de pouvoir envisager sa vie chrétienne, une fois qu'on a donné son cœur à Dieu, à Jésus, c'est de rester ferme dans la grâce. Je voudrais lire ce texte qu'on trouve dans la lettre aux Romains, au chapitre 5, au tout début du chapitre, les versets 1 et 2, où Paul dit « Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. » L'expérience de la conversion, le fait là qu'on ait donné notre cœur à Dieu. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermes. Elle est là, la solution. Les deux premières choses que j'ai évoquées avec vous, ce n'est pas des solutions. Ça, c'est la solution. Demeurer ferme dans la grâce de Dieu. Ce texte nous dit que nous avons accès à la grâce de Dieu par Jésus. Et le verbe qu'il utilise, Paul, là, à cet endroit-là, ça évoque l'image du serviteur qui va autoriser quelqu'un à entrer dans les appartements du roi. Il faut savoir que dans l'Orient ancien, être reçu dans le palais du roi, c'était être reçu dans la maison du roi. Aujourd'hui, si vous êtes reçu à l'Élysée, vous n'allez pas aller dans la maison de François Hollande. L'Élysée, c'est un bâtiment public. À l'époque, dans les temps anciens, dans les temps bibliques, le palais du roi, c'était la maison du roi. Et quand vous étiez reçu dans le palais, vous entriez dans les appartements du roi, dans sa demeure. Et cet accès n'était possible que par l'intermédiaire du serviteur auquel le roi avait confié l'administration de son palais, ce qu'on appellerait aujourd'hui le chambellan. Et ce libre accès auprès de Dieu, nous dit Paul, a été acquis par Jésus. Et Jésus invite les chrétiens à rester fermes dans ce libre accès. Vous avez maintenant un libre accès à Dieu grâce à Jésus, donc maintenant faites le choix de rester ferme dans cette liberté d'accéder à Dieu. Ça transforme les choses dans notre façon de les envisager, parce que quand je fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, si, bien évidemment, je le regrette sincèrement, eh bien, je peux croire par la foi qu'il ne m'en tient pas rigueur. Oui, je reconnais, j'ai mal fait, j'ai échoué là. Là, j'ai fait preuve d'inattention ou j'ai pas pu. Ma nature a été plus forte. Mais c'est pas ça que je veux faire. Et je le regrette. Et je te demande pardon. On a ce libre accès dans lequel on peut tenir ferme. Et voyez que là, les règles ne peuvent pas ça. J'ai foi en un Dieu de grâce qui m'a pardonné et qui m'accepte continuellement dans sa présence grâce à Jésus. Et ce libre accès dans sa présence ne m'autorise pas à faire tout ce que je veux, mais à me montrer respectueux et reconnaissant. Je suis dans la présence du roi, je suis dans la présence de Dieu, et ça m'amène à avoir un comportement qui soit en adéquation avec ce libre accès. Ce qui me motiverait à bien conduire sur la route si Sandrine avait payé mes contraventions, ce serait l'amour et la reconnaissance, bien sûr. Parce que Sandrine, je la côtoie tous les jours. Je suis tous les jours dans sa présence. On mange ensemble, voilà, on se promène ensemble, on fait plein de choses ensemble. Alors, si je faisais ce que je veux sur la route, ou si là je m'arrêtais à mes codes, à mes règlements, comment est-ce que je pourrais rester dans sa présence si je n'étais pas respectueux de ce qu'elle avait fait pour moi ? Des fois, il y a des moments où je ne pourrais peut-être pas, même pas croiser son regard, même pas la regarder dans les yeux, qu'elle a pourtant si beau. Appliquons-nous les uns les autres à la lumière de la parole, à percevoir Dieu tel qu'il se révèle, tel qu'il est. N'enfermons pas Dieu dans ce qu'il nous semble être. Un Dieu qui exige le respect de ses commandements et qui est prêt à nous reprocher tout manquement, ou alors un Dieu qui accepte tout. Ça, c'est une image qu'on s'est faite de Dieu. Mais laissons-nous convaincre de ce que Dieu est vraiment, de qui il est vraiment, c'est-à-dire un Dieu qui me libère par sa grâce et qui, par sa grâce, grâce à Jésus, me donne toujours accès dans sa présence, et sa présence va évidemment avoir un effet sur mon comportement. La seule façon d'être victorieux sur le péché, de laisser la grâce agir continuellement, c'est d'être uni à Christ, à celui qui nous a ouvert cette voie vers Dieu. Et comment elle se fait, cette unité avec Christ ? Elle se fait par le Saint-Esprit. C'est ce que Paul enseigne encore un peu plus loin dans la lettre aux Romains au chapitre 8, lorsqu'au verset 1 et 2, il écrit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, unité avec Jésus-Christ. » Car la loi de l'Esprit, qui donne la vie par Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est l'action du Saint-Esprit qui va me permettre là cette unité avec Christ et qui va me permettre d'être libéré de la loi du péché et de la loi de la mort. Rester ferme dans la grâce, c'est croire que là, cette grâce est constante et toujours agissante. Alors c'est vrai que cette unité, elle ne s'acquiert pas forcément d'un seul coup. Ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. Elle est le résultat d'une continuelle aspiration. C'est une question de disposition de cœur et d'esprit. C'est ce que nous comprenons quand Paul écrit plus loin au verset 5 et 6. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se disposent aux choses de leur nature. Mais ceux qui vivent selon l'esprit se disposent aux choses de l'esprit. La disposition aux choses de sa propre nature mène à la mort. Mais la disposition aux choses de l'esprit mène à la vie et à la paix. Le verbe que Paul utilise dans ce passage de la lettre aux Romains, c'est le verbe phronéo, qui désigne, dans le grec ancien, l'action de penser, l'action de sentir, autant au niveau intellectuel qu'au niveau de ce que nous pouvons ressentir, des sentiments. Et il est question dans ce passage de disposer ses pensées, ou de, on pourrait dire, de nourrir ses pensées. Et la question que nous sommes appelés à nous poser en tant que chrétiens et chrétiennes, si nous voulons grandir dans notre marche spirituelle avec Dieu, c'est: comment je vais disposer mon esprit ? De quoi je vais me nourrir spirituellement ? À quoi je vais laisser la place ? Parce que Paul nous dit, il y a des dispositions qui mènent à la mort. Il y a des dispositions qui nous rendent inefficaces spirituellement, qui nous anesthésient, qui nous affaiblissent, qui nous rendent insensibles, que ce soit les règles ou que ce soit le laisser aller. Mais il nous dit aussi qu'il y a des dispositions qui mènent à la vie et à la paix. Ça, ce sont des dispositions qui nous renouvellent, qui nous fortifient, qui nous vivifie et qui nous apaise, qui nous apporte la paix intérieure dont nous avons besoin. Et ça, nous ne pouvons l'avoir que parce que nous prenons conscience de ce libre accès que nous avons à Dieu et qui nous a été donné par Jésus. Cette unité avec Christ, l'action de l'Esprit en moi va me permettre de pouvoir entrer dans la présence de Dieu librement. Quand on aime quelqu'un, on aime être avec cette personne, on aime être dans sa présence, on aime l'écouter quand elle parle, on a de l'intérêt pour ce que cette personne est, pour ce qu'il dit. Et on peut vivre ça avec des gens de notre entourage, on peut vivre ça avec des membres de notre famille, on peut vivre ça avec des amis. Ça vous est certainement déjà arrivé de passer des heures et des heures entières. On est capable comme ça de parler de choses. On se couche à des heures pas possibles parce qu'on aime parler. On est bien dans la présence de ces personnes. On ne voit pas le temps passer. On peut plaisanter, on peut rigoler ensemble, on peut avoir des discussions sérieuses. On peut la partager tant au niveau de l'intelligence qu'au niveau de nos émotions. Et dans le cadre de ce genre de relation, on se dispose à se laisser influencer par la personne avec laquelle on a cette relation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a aucune barrière. On a libre accès à cette personne que l'on aime. On a la liberté aussi de s'exprimer. On a la liberté de parler. Et de la même manière, nous aurons nos victoires dans nos vies personnelles en fonction de l'affection et de l'intérêt que nous aurons pour Dieu et pour son royaume. En fonction du plaisir que je vais trouver dans ma relation avec Christ par le Saint-Esprit. Plus j'aime Dieu, plus j'aime sa parole, plus j'aime son œuvre, et moins le péché aura d'attrait sur moi. Plus j'aime Dieu, plus j'aime sa parole, plus j'aime son œuvre, et plus j'aurai envie de faire sa volonté. Pas besoin de règles, pas besoin de me laisser aller. Simplement prendre conscience de ce libre accès. Là, ce désir de pouvoir entrer dans sa présence, de rester dans sa présence. Je vais raconter encore une histoire pour illustrer ça. Il y a quelques années en arrière, j'étais ado, donc c'était pas il y a si longtemps quand même. Et j'étais parti en vacances. Chaque été, je partais en vacances avec mes grands-parents. Et puis, on était parti en Savoie. Magnifique partie de la France, la Savoie. Paysage de montagne. Et puis, donc, on était parti faire une balade. On avait garé la voiture dans un petit village, un hameau, là où il y avait tous les touristes, les tables, et là où ils pouvaient se désaltérer. Et on avait pris un petit chemin qui montait dans la montagne. Et puis, après avoir fait quelques mètres comme ça, au cours de cette promenade, avec ma sœur qui était là, on voyait les rochers, et qui nous semblaient accessibles. Et moi, je me disais, oh là, ça me plairait bien d'aller grimper sur les rochers. Ça a l'air sympa de crapahuter un petit peu. J'avais peut-être 13, 14 ans. Et j'avais emmené ma sœur. Je dis, ouais, on pourrait aller là-bas, on pourrait grimper. Alors on s'est tourné vers mon grand-père et puis je dis, est-ce qu'on peut aller là-bas? Mon grand-père n'était pas trop chaud, quoi. On dit, bon, ok. Bon, il nous aimait bien, donc il nous a laissé faire. Alors on est monté, on a commencé à monter, mais en fait, dans la montagne, il y a des questions de perspective. Ça veut dire que ce qui nous paraissait facile d'accès quand on était sur le chemin, quand on a monté, les cailloux étaient devenus énormes. Alors on a commencé à monter dessus, et puis en regardant, on s'est aperçu que c'était vraiment, vraiment dangereux. Et que si on chutait, on pouvait se faire très, très, très mal. Et à un moment même, je me souviens, on était bloqués. Ma sœur, elle ne pouvait plus avancer, elle ne pouvait plus bouger. Alors je commençais à être en panique, je me suis dit, mais comment on va se sortir de là? Donc, et puis mon grand-père, il était là en bas, et puis il a vu, il voyait que ses petits-enfants étaient en difficulté. Et l'inquiétude, évidemment, est montée dans son cœur. Il a commencé à paniquer. Puis il y avait des gens qui passaient, puis qui disaient, comment ça se fait que les enfants, ils sont montés là-bas? C'est complètement inconscient. Mais qui peut bien autoriser ces enfants à monter là-bas? Mon grand-père, en plus, mon grand-père, il boitait parce qu'il avait eu un accident de travail. Et il était déjà âgé, il était déjà à la retraite. Et il n'y a personne qui venait à notre secours. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il y est allé lui-même. Il a commencé à crapahuter. Il avait mis ses lunettes dans sa poche. Et puis, en crapahutant avec ses deux jambes, ses mains, ses lunettes étaient tombées. Il a perdu ses lunettes. Et il est arrivé jusqu'au bas des rochers. Et puis, nous, entre-temps, avec ma sœur, on avait quand même réussi à se dépatouiller. On était redescendu au bas des rochers. Et quand mon grand-père nous a vus, il avait les larmes aux yeux. Il dit, vous êtes là. Vous avez réussi à descendre. Il était soulagé. Je me souviens encore de son regard. Quand on est redescendu sur le sentier, la balade, elle était terminée. On a fait demi-tour. On est retourné dans le hameau. Et moi, je me souviens que j'étais parti devant. J'avais trop honte. J'étais mince quand même. Voilà ce que j'ai provoqué. J'ai conduit mon grand-père à monter jusque là-haut. Je l'ai inquiété. Il était en larmes. Et j'avais tellement honte d'être dans sa présence que je suis parti devant. Quand je suis arrivé dans le hameau, j'avais l'impression que toutes les gens qui étaient aux terrasses me regardaient. Ils disaient, oh, c'est eux, c'est lui qui était là-haut tout à l'heure. Les vacances auraient pu être fichues. Mais j'ai passé des vacances extraordinaires. J'ai passé ces vacances en paix. Vous savez pourquoi? parce qu'à aucun moment, mon grand-père ne m'a fait de reproche. À aucun moment. Jamais, il est revenu sur ce qui s'était passé. Jamais, il m'a dit, j'ai eu peur. Jamais, il m'a dit, à cause de toi, j'ai perdu mes lunettes. Aucun reproche. Rien du tout. Aucun rappel les jours qui ont suivi après. Et vous savez ce que ça a déterminé pour moi ? C'est que dans les balades suivantes, j'ai jamais regrimpé sur les rochers. Jamais, jamais. Impossible de mettre mon grand-père dans cet état-là. Impossible de le toucher dans son cœur comme je l'ai fait une première fois. J'ai vécu ces vacances dans la paix parce que j'avais libre accès à l'amour de mon grand-père. Parce que j'avais libre accès à son pardon. Parce que j'avais libre accès à sa présence. Et c'était génial. C'était merveilleux. La victoire sur mes mauvaises habitudes, sur la tentation, sur mon péché, elle ne se remportera jamais en luttant à coups de « je dois » ou « je dois pas », mais en m'attachant à Jésus, qui plaide continuellement ma cause devant Dieu. En m'attachant à Jésus, dont la grâce est continuellement agissante. Elle est en action, toujours en action. Et Jésus se tient devant Dieu pour que je puisse avoir libre accès à lui. Et même si je commets une erreur, si je viens et je dis « pardonne-moi, excuse-moi », Jésus est en train de plaider pour moi. Et il dit à Dieu « mais reçois-le dans ta présence, fais-le entrer dans ton palais, reçois-le dans tes appartements, qu'il puisse à nouveau bénéficier de sa présence. » La victoire sur mes mauvaises habitudes, sur mon péché, ne se remportera pas en pensant que Dieu accepte tout. Il accepte ma désobéissance, mais en m'attachant à Jésus. Parce que par amour pour lui, en considérant ce qu'il a payé pour moi, je vais me montrer respectueux de sa volonté. Je vais prendre conscience que je suis dans la présence du roi du roi, du roi des rois, du Seigneur. Et inévitablement, ça va avoir une influence, un impact sur la façon dont je vais envisager ma vie. J'aurais terminé et conclure avec ce verset. On pourrait reprendre un chant d'ailleurs. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes passé de la mort à la vie avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pour pouvoir disposer notre esprit à la vie, à la paix, aux choses spirituelles, on est invité à fixer nos regards sur Christ, sur Jésus. Rechercher les choses d'en haut, c'est regarder Christ qui est assis à la droite de Dieu. C'est ce que nous dit ce texte-là. Il est le chemin. Il est celui qui me donne un libre accès auprès du Père. Il est celui qui me permet de pouvoir faire l'expérience de la présence de Dieu. Et je veux que cette présence m'influence. Je veux que cette influence la détermine ma façon d'envisager ma vie, ma façon d'envisager mes relations, ma façon d'envisager mon service. Là, je veux réaliser que c'est grâce, c'est par la grâce que je peux avoir la bénéfice, accès à toutes ces choses-là. On va reprendre ce chant, mais je voudrais vous inviter à vous recueillir. Et ensemble, on va se poser les questions, on va se poser les bonnes questions. Il faut qu'on puisse déterminer les uns et les autres sur quelle voie on est, quelle solution on a choisie. Ok, je connais Jésus, je sais qu'il est mon Seigneur, je sais qu'il est mon Sauveur. Ok, il a effacé mes péchés. Là, j'ai fait ce choix de le suivre.